le mystère de l'Eucharistie qui doit être au centre de toute notre vie. Testament de Jésus doit nous conduire à une charité fraternelle toujours plus intense. C'est le fruit voulu par Jésus. Jésus se donne entièrement comme nourriture, totalement comme nourriture pour chacun d'entre nous. Et il nous demande par le fait même d'être entièrement donné à ceux qui sont proches de nous. Je crois que nous pouvons regarder ce qui est dit dans l'évangile de Saint Jean. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est assez délicat, étant donné la position de certains exégètes, mais si je prends le texte tel qu'il est, je vois que c'est à la suite de la scène que Jésus donne le nouveau commandement, le précepte nouveau. Et c'est important pour nous de voir ce lien voulu par Dieu entre le mystère de l'Eucharistie et le mystère de la charité fraternelle. C'est l'amour divin qui se donne pleinement, testament d'amour, et qui réclame de nous d'entrer dans ce même rythme d'amour à l'égard de ceux qui sont proches de nous, de les aimer comme Jésus les a aimés, et donc de nous faire comprendre que ce mystère de l'Eucharistie doit être pour nous comme la mesure, la norme de notre charité fraternelle. Il faut que nous allions jusque-là. Il faut donc accepter que celui qui est proche de nous passe devant nous et que nous l'aimions vraiment comme Jésus lui-même nous a aimés, en ne gardant rien pour lui et en donnant tout. C'est cela le propre d'un amour divin. L'amour divin est substantiel. Et par le fait même, il réclame un don substantiel. L'Eucharistie, c'est un don substantiel. C'est le corps du Christ qui est donné per modum substantiae. C'est l'âme du Christ. C'est la divinité qui se donne entièrement, sans rien garder. C'est le don le plus absolu. Et il faut que nous vivions de ce don pour que nous puissions progressivement vivre totalement du Christ. Au moment où nous recevons l'Eucharistie, nous pouvons dire en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si nous voulons que le mystère de l'Eucharistie réalise en nous toutes ces virtualités d'amour, qu'il aille jusqu'au bout, sans qu'il y ait aucun arrêt extérieur qui empêche ce don d'aller jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'à la fin. C'est le texte de Saint Jean. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Et donc nous comprenons très bien s'il nous a aimés jusqu'à la fin, c'est-à-dire en donnant tout et en livrant tout. Il veut que nous l'aimions, nous aussi, de la même manière. C'est-à-dire sans rien garder, mais de faire que tout ce qui est nous, ce qui est à notre usage, tout ce que nous aimons exercer d'une manière ou d'une autre, toutes nos opérations, il faut que tout soit donné pour que nous vivions du Christ comme lui-même vit du Père. Vous savez bien, au chapitre 6 de Saint Jean, c'est ce qui est affirmé. Et le fruit propre du mystère de l'Eucharistie doit être cela. Et nous devons avoir soif que ce fruit se réalise comme le Père, comme Jésus lui-même vit par et pour le Père, de même celui qui me reçoit vit par et pour moi. Ce dia grec qui exprime bien ces deux aspects, l'aspect de la source, Jésus est source d'amour pour nous, et d'aspect ultime, il est pour nous la mesure même de notre don. Il n'y a pas d'autre mesure. C'est l'amour actuel du Christ sur nous. C'est ça qui nous fait comprendre ce qu'il y a d'infini dans ce mystère de la charité fraternelle. Intérieurement, nous pouvons toujours réaliser cette charité fraternelle avec cette même intensité. Et nous devons le faire, puisque c'est le précepte nouveau. Et nous devons demander à l'Esprit Saint et à Marie de nous apprendre à le vivre. Ce mystère de la charité fraternelle, il s'incarne dans une vie commune. Nous le savons. Et dans la vie commune, il y a 1000 occasions d'exercer la miséricorde, d'exercer un amour chaleureux, aimant, d'exercer un véritable amour pour son frère en étant attentif, en vivant le plus que nous pouvons de ce don qui est fait à Jésus et qui est fait à nos frères. Dès qu'il y a cette incarnation de la charité fraternelle, nous tombons dans un aspect visible. Et par le fait même, l'absolu n'est plus le même. Il faut toujours se rappeler ça. Quand on traduit son amour, sa charité fraternelle vis-à-vis du prochain, quand on traduit cette charité fraternelle, nécessairement, nous ne pouvons plus mettre le même absolu que nous mettons dans la prière silencieuse. Nous pouvons, et même quelquefois l'Esprit Saint nous le demande, de porter, d'aimer ceux qui sont proches de nous et qui ont besoin de nous. Mais nous devons toujours le faire quand il s'agit de l'expression et des gestes. Nous devons toujours le faire selon une prudence. Une prudence informée par la charité, transformée par le don de conseil dans son exercice, mais c'est quand même toujours une prudence. La charité intérieure n'a pas de limite. Vous pouvez aimer indéfiniment. C'est du reste ça qui fait la souffrance, parce que la souffrance de notre cœur, parce que nous apercevons toujours que notre charité fraternelle n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle devrait être à l'unisson du cœur du Christ, et elle devrait être une avec celle de Jésus. Nous devrions aimer celui qui est proche de nous comme Jésus l'aime, avec la même intensité, la même force. Et bien évident, personne d'entre nous n'oserait dire « Ah, moi j'aime comme ça ». Ça prouverait qu'il n'a pas très bien compris toute l'abîme qui existe entre le cœur du Christ et son pauvre cœur. Notre pauvre cœur doit toujours lutter contre l'égocentrisme. Nous sommes tellement tournés sur nous que nous mesurons les autres en fonction de notre amour propre. Et donc nous ne les aimons pas vraiment. Il faut lutter, ça. Et pour lutter, il faut s'en apercevoir. C'est pas très drôle. Quand Dieu nous donne des lumières profondes sur notre peu d'amour vis-à-vis du prochain, c'est toujours très dur à porter. Mais vaut mieux le porter maintenant que lorsque nous serons en face de Jésus et que nous aurons quitté cette terre. Parce que ce serait une triste expérience. Alors que quand on verra Jésus, on n'aura qu'un seul désir, hein, c'est d'être avec lui et de l'aimer comme il nous aime. Et d'aimer tous les autres avec le même amour. Nous pouvons devancer ce jugement. Il faut le devancer dans notre prudence pour aimer ceux qui sont proches de nous avec la même qualité d'amour. Intérieurement, nous sentons très bien que nous devons le faire avec Marie. Vivre de cette exigence avec Marie, dans le cœur de Marie. Et nous savons très bien que nos gestes, forcément, limitent, extériorisent. C'est la faiblesse des gestes. C'est qu'ils ne peuvent pas exprimer adéquatement un mystère infini. Le mystère de la charité fraternelle est infini. Tandis que le geste, la parole que nous disons à nos frères, eh bien, c'est limité. Nous l'avons bien senti tout à l'heure au réfectoire, quand on lisait ces lettres de, Sainte, de la bienheureuse Sainte Élisabeth, Sainte, je veux dire, notre chère Carmélite de Dijon, Sœur Élisabeth de la Trinité. C'est très net, on voit très bien. Elle a une soif de pouvoir exprimer avec une très grande intensité ce qu'elle vit. Puis alors, dès qu'elle le dit, c'est toujours un peu boiteux. Ça sent. Et parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à un abbé. Même s'il est frère de notre âme et que nous sommes très proches de lui, surtout du temps d'Élisabeth, de la Trinité. Aujourd'hui, hein, les Carmélites diraient avec une ferveur nouvelle certaines choses plus directes. Je crois qu'elles ont raison de le dire d'une façon plus en faisant, en demandant évidemment de garder ces lettres secrètes. Mais normalement, on sent très bien qu'il y a. On voudrait tellement qu'il n'y ait pas d'hiatus dans la charité fraternelle. On voudrait tellement pouvoir être directement ce qu'on est. Intérieurement et extérieurement, et c'est impossible. On peut l'être pour Dieu, oui, parce que Dieu voit tout de l'intérieur. On peut dire toutes les folies possibles dans l'ordre de l'amour. Ne vous gargarisez pas trop de ça, hein. Mais vous pouvez le dire, vous avez le droit de le dire, en essayant de le vivre, en essayant de faire que ce soit de plus en plus vrai. Mais dès qu'il s'agit du prochain, il faut comprendre que la prudence éclairée par la prudence infuse, éclairée par le don de sagesse et le don de piété, fait que nécessairement nos paroles, nos gestes ne peuvent pas exprimer et dire adéquatement ce que nous ressentons et ce que nous voudrions dire. C'est vrai, ça. On le sent bien. Il vaut toujours mieux dans ce domaine-là être un peu plus discret que d'exagérer dans l'autre sens. Vaut mieux. Avec nos chères sœurs, vous voyez bien, on peut dire que l'Esprit Saint nous fait prier pour tel ou tel. C'est très bien. Mais nous devons comprendre que nous restons des êtres humains, sensibles, et que notre don total au Christ doit passer à travers notre sensibilité et doit faire que tout nous-mêmes, nous soyons donnés à Jésus, donnés à Marie, donnés à nos sœurs, donnés à nos frères. Il y a toute une éducation de l'Esprit Saint. Et je crois ça très important. Il y a toute une éducation de l'Esprit Saint qu'on demande conseil, qu'on essaie de voir clair. Mais il y a toute une éducation de l'Esprit Saint. On ne nous a pas beaucoup éduqués dans ce domaine-là. On nous a éduqués un peu du côté de la tempérance. Pour faire quand le plat passe, on ne vide pas dans son assiette. On nous éduque un peu du côté de la tempérance. On nous a éduqués. Il faut maintenir ça. Et si on ne l'a pas fait, le noviciat est fait pour ça. On doit nous éduquer du côté de la politesse, du côté d'une certaine manière de se tenir. Au réfectoire, on ne se tient pas n'importe comment. Parce que justement, c'est une belle liturgie. Donc on ne mange pas trop vite. C'est la réflexion, vous savez bien, de ceux qui viennent ici, ils disent tous qu'on va trop vite. Alors on a envie de leur dire, vous savez, on a tellement peu de temps que si on peut gagner 5 minutes, on est content. Mais c'est peut-être pas un bon calcul. Il faut peut-être mettre un rythme au repas, surtout de midi, le repas du soir, collation, rapide. Le repas de midi peut-être un peu plus, pour qu'on garde, vous voyez, un certain sens, que les repas, c'est un acte de charité fraternelle. C'est un acte de détente. Il ne faut pas que les repas tendent. On a déjà fait un très grand progrès, hein, de ne pas mettre à côté de nous, en face de nous, un vis-à-vis. Ça, c'est énorme. Celui qui a pris l'initiative de ça, c'est très très bien, parce que c'est tellement désagréable d'avoir quelqu'un indiscret qui a les yeux sur notre assiette. Hein. C'est tellement indiscret, c'est tellement désagréable. Alors, il y a au moins ça, c'est déjà beaucoup. Il faut peut-être découvrir un rythme, le rythme de la lecture. Et mieux, et découvrir un rythme. Vous voyez, ce sont des petits riens, tout cela, mais je crois que c'est bon. Et puis, ne pas fatiguer trop vite nos estomacs. Parce qu'après, c'est les dents des petits-enfants qui en sont agacés. Alors, il faut qu'on fasse un petit peu attention là-dessus. Je sais, je me frappe la coulpe le premier, mais j'ai essayé de faire attention depuis qu'on me l'a dit. Parce que je me dis, il faut faire un petit peu attention là-dessus. Mais c'est pas moi qui vous donne la mesure. Non, non, non. C'est l'Esprit Saint au-dedans de vous-même qui doit vous faire comprendre le rythme qu'il faut avoir dans le repas. S'il y a quelques petites explications, on les demande. Il ne faut pas être nécessairement toujours le dernier. Parce que ça, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours. Je sais bien qu'il faut un dernier. Mais c'est pas nécessairement toujours le même. Alors si on... C'est des petits détails de charité fraternelle, ça. Mais c'est bien. Et ça doit être vu dans la charité fraternelle, en impliquant la prudence. Exactement comme les récréations, exactement comme les chapitres. J'en parlerai demain. C'est la prudence qui doit nous apprendre à dire, à nous tenir, à avoir des gestes, avoir des paroles qui soient conformes au cœur de Jésus. Alors, il ne faut pas des paroles pieuses, hein, vous voyez bien, conformes au cœur de Jésus selon une dévotion particulière. Alors, c'est toujours en Marie, c'est très très bien, je suis tout à fait d'accord, mais c'est peut-être pas toujours la même sauce, hein, vous voyez, il faut de temps en temps notre... C'est vrai, je comprends, c'est pas, ça ne me scandalise pas, mais ça peut quelquefois scandaliser. Alors, il ne faut pas qu'il y ait cette dévotion trop poussée. Il y a une espèce de force intérieure. Ce que ça intéresse demander, hein, que toutes ces carmélites devaient être des hommes barbus. Alors, vous voyez, c'est Sainte-Thérèse qui demandait ça, et elle réclamait ça. Réclamait qu'il y ait une certaine force dans les rapports de charité fraternelle. Ce ne soit pas de la sainte guimauve, ce ne soit pas tomber dans des choses complètement, vous voyez, vasouillardes. Non, non. Il y a des relations d'homme à homme, de frère à frère, qui ont une certaine tenue, une certaine force. C'est bien ça. On se virilise mutuellement les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit pousser à l'extrême, ça. Non, il y a des moments où il faut une certaine douceur. Mais avec les sœurs, c'est très différent. Il ne faut pas prendre une attitude exprès de celui qui sait qu'il est frère de la communauté. Et que la sœur, elle est à la cuisine. Alors, on voit très bien. Non, il faut au contraire qu'il y ait des relations vraies. Ça doit se découvrir, ça, intérieurement. Encore une fois, si on ne voit pas qu'on le demande, c'est toujours un petit peu gênant, vous savez, de faire des remarques dans l'ordre de ces choses très simples. Toujours un peu gênant. Alors je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le demander. Au Père Maître, parce que le Père Maître le voit bien. On est bien posté pendant le repas pour diriger le tir. Alors on voit bien. Donc, et c'est fait exprès, c'est ça qui est mieux, n'est-ce pas, pour qu'on voit bien, c'était le vieux Père Maître, vous savez, je vous avais dit ça, il ne recevait jamais quelqu'un au noviciat sans l'avoir regardé d'abord manger au réfectoire. Parce que ça, ça ne trompe pas. Un chien, il prend comme un chien, un chat comme un chat, une vache comme une vache, un homme comme un homme. Avec une certaine tenue. Il ne faut pas que ce soit gardé, c'est bien évident, il faut que ce soit vrai. Mais plein de charité pour celui qui est à côté de nous. Plein de charité. Parce que s'il y a un trop grand laisser-aller, ça peut être très désagréable. Ils sont des petits riens. Tout ça, c'est les petites fleurs de la charité fraternelle ou les grandes palmes de la charité fraternelle. La charité fraternelle nous mérite le martyre, non sanglant. Et c'est vrai. Et pour nous, c'est très important, puisqu'on voit que le père Maximilien Kolb a été martyr de la charité fraternelle. Et nous devons donc aller jusque-là, être martyr dans la charité fraternelle. Au moins, in preparatione animae. Dans la préparation de notre cœur et de notre âme. Acceptez toujours que notre frère passe devant. Parce que c'est ça, être martyr de la charité fraternelle. C'est d'accepter que notre frère passe devant et que nous soyons là, relatifs à lui, pour l'aider. L'Eucharistie doit chaque jour nous renouveler dans l'exigence de la charité fraternelle. Et je crois que c'est excellent, durant l'action de grâce, d'entendre Jésus nous dire son précepte « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pour que nous puissions tout de suite, dans cette lumière, voir si nous sommes vraiment charitables. Si nous ne sommes pas tout le temps hypercritiques. C'est très désagréable dans une famille. Une famille, normalement, on ne se critique pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est dans un pays qu'on se critique. Et un pays à l'égard d'un autre pays, alors on se critique encore plus. Quand c'est la grosse critique internationale, ça c'est encore plus. Mais dans une famille, on ne se critique pas. Parce qu'on sait que ça blesse le cœur de la mère. On essaie de mettre des liens toujours plus forts et plus intenses. On n'a pas tout de suite le mauvais œil, qui tout de suite juge, et tout de suite met presque un non. Alors à ce moment-là, petit à petit, ça fait qu'on rejette certains, on les évite. On n'a évité aucun de nos frères. Qu'on se retrouve toujours les mêmes, ça arrive. Alors quand on voit que ça se répète indéfiniment, faisons attention. Faisons attention, là aussi, parce qu'on n'a pas à faire qu'on est uniquement toujours l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de place pour les cours. C'est vrai, du moins je crois. Je ne sais pas si vous avez mis des places, mais il n'y a pas de place. On entre comme ça, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut justement faire, parce que subir un cours à côté d'un frère, c'est ce qu'on disait avant, tu vois, quand on était pensionnaires, pantos longuement ensemble, on a usé le fond de ses culottes pendant des années ensemble. Ça fait des amitiés, ça. Oh là là. Ça fait des liens extraordinaires qui resteront tout le temps. vivre ensemble ces années de formation, ces années d'études. Il faut qu'il y ait un brassage. Mais l'avantage d'ici, c'est que le noviciat n'est quand même pas séparé. Alors, il ne faut pas trop le séparer. Qu'il ait des exercices particuliers de temps en temps, c'est normal. Qu'il y ait des messes du noviciat, qu'il y ait des petites conférences du noviciat, c'est normal. Qu'il y ait des chapitres aussi. Mais tout ce qui est les exercices communs, ben les exercices communs, il faut qu'il y ait un brassage. Il ne faudrait pas dans les récréations que tout le temps soient les mêmes. C'est un manque de charité. C'est pas explicite, vous voyez, c'est pas explicite, ça fait partie des atomes crochus. Hein? On est polarisé avec quelqu'un, on sait pas trop pourquoi. Et quelqu'un vous fera la remarque, dire « Ah mais non, je suis jamais avec lui ». On la regarde un peu, on voit très bien que toujours. Alors on doit un petit peu lutter contre ça, je crois que ça fait partie de la prudence, vous voyez. Quand on est uniquement selon son instinct, alors c'est très bien. Mais la charité fraternelle, c'est pas selon l'instinct. C'est selon l'amour du Christ. On se choisit dans l'amour du Christ. Et on s'aime dans l'amour du Christ. Et on incarne cet amour dans la lumière de Jésus. Et on l'incarne de façon multiple et diverse. Mais on tient compte de tout cela. Oui, ça a l'air de rien, mais je suis sûr, si vous demandez attentivement à Jésus, et à Marie, que si on exclut, sans vouloir exclure, hein, mais si on exclut automatiquement, parce qu'on est toujours l'un à côté de l'autre, on est toujours l'un avec l'autre, donc on exclut, sans le vouloir explicitement, bien, ce n'est pas la charité dans ce qu'elle a de parfait. Au noviciat, et ça fait partie du noviciat, au noviciat, il doit y avoir ce dépassement au niveau de l'affectivité. C'est bon, vous savez, c'est très bon. Notre affectivité, tant mieux si nous en avons une grande. C'est très très heureux, parce que ça nous permettra d'avoir un contact direct avec beaucoup de gens. Quand il n'y a pas d'affectivité, quand il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas beaucoup de contact dans les conférences qu'on pourra donner, dans la prédication qu'on pourra donner, ou dans les cours qu'on pourra donner. Et donc, s'il y a une certaine affectivité, tant mieux. C'est plus rude. Ça nous fait davantage souffrir. C'est sûr. Si on pouvait, voyez, faire que notre sensibilité, notre affectivité, soit arrêtée à leur hache, n'est-ce pas ? On souffrirait beaucoup moins. Mais on ferait souffrir les autres sans le savoir. Parce qu'il faudrait que tout le monde soit comme ça. Mais alors, ça deviendrait pire qu'un régiment, ça deviendrait effrayant. Alors, il faut connaître son affectivité, il faut la connaître, il faut être lucide dans son affectivité, il faut savoir qu'on est particulièrement sensible. On l'est tous, n'est pas pire que vous, et Marie n'était plus que vous. Alors, c'est merveilleux, vous pouvez encore y aller, hein. Marie avait une affectivité encore bien plus grande que la vôtre. Et Jésus aussi. Et Jean aussi. Quand vous verrez Jean dans le ciel, vous verrez. Il avait une affectivité bien plus grande. Nous avons une affectivité un peu usée. Parce que nous appartenons à un monde de la rapidité. Et ce monde de la rapidité fait que fatalement la sensibilité s'use. Ce qui explique des dérapages. Ce qui explique aussi des rattrapages. On a tenu pendant un certain temps, sans faire attention qu'on n'a peut-être pas tenu l'animal avec suffisamment d'intelligence. Il faut de temps en temps le laisser se détendre. C'est pas commode de se détendre dans la vie religieuse. C'est pas commode. C'est tout un art. Et pourtant il le faut, c'est nécessaire. Parce que quand l'arc est trop trop tendu et tout le temps tendu, ça va pas. Surtout quand on est jeune, quand on est âgé, c'est autre chose. Alors là, c'était le père Mandonnet qui disait ça, et il avait parfaitement raison. Le père Mandonnet disait, il faut que chacun d'entre nous, nous fassions les limites de notre affectivité. Et il faut que fassions aussi les capacités de notre affectivité. Autrement dit, ayons un peu de lucidité. Parce que quelquefois, on n'en a pas du tout. Pas du tout de lucidité. Ça arrive. Ça arrive même entre... dans le foyer, entre époux et épouse. Je vous ai raconté, je crois, ce qui m'a été rapporté directement. Je ne sais pas. Quand Madame Monod a été mise à l'hôpital parce qu'elle avait le cancer... Et elle voulait à tout prix être soignée par des religieuses de Cluny. Et ce sont les religieuses de Cluny qui m'ont raconté ça. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a tout de suite dit. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a tout de suite dit à la sœur. Est-ce que vous pourriez réciter les psaumes avec moi? Elle était d'origine. Elle était israélite. Elle n'était pas chrétienne. Elle était israélite. Elle avait la foi. Elle a tout de suite demandé ça. Et la sœur venait tous les jours réciter pendant un quart d'heure, 20 minutes, les psaumes avec elle. Puis à la fin, elle a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire une messe pour moi? Je sais bien que je ne suis pas chrétienne, mais je le suis d'une certaine manière parce que je trouve que c'est tellement grand. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire une messe pour moi? C'est bien le baptême de désir, hein, ça. À sa manière, c'est quand même très étonnant. Alors, la sœur a dit, mais c'est bien évident. Alors, quand elle était morte, elle l'a dit au professeur Monod. Quand elle a dit ça au professeur Monod, le professeur Monod a commencé par se mettre en colère. Mais tu ne voudrais pas me raconter des histoires, ça, c'est des histoires de nonnes. Pas du tout. C'est pas nous du tout. C'est pas moi qui ai demandé ça, c'est elle. Mais non, pas du tout. Elle était athée. Elle ne croyait à rien. Oh, pas du tout. Vous avez mal compris. Dès qu'elle est venue ici, elle a demandé, compris avec elle. Quand la colère est tombée, il s'est effondré. Et il dit, je croyais la connaître. Dans sa sensibilité profonde. Et j'ai vu que je n'ai rien compris. Comme j'ai dû lui faire mal. En affichant tout le temps mon athéisme. En considérant que l'attitude religieuse était... Et alors la sœur, à ce moment-là, lui a dit, on aura une messe tel jour. Elle l'a demandé. Et professeur Monod est venu. C'est tous les abîmes du cœur de l'homme. Hein. Et au fond, chacun d'entre nous, il y a ces abîmes-là. Il y a des abîmes qui sont tellement profonds. Et dans la vie commune, que voulez-vous? Toujours un peu le gros rouleau compresseur. C'est le même pour tout le monde. On se lève tous les jours à la même heure, on essaie de se coucher dans une certaine zone, n'est-ce pas? Et puis, le reste, c'est le même règlement. Or, de fait, les âges ne sont pas les mêmes, les expériences ne sont pas les mêmes, les sensibilités sont toutes différentes au point de vue religieux. C'est très rude dans le monde d'aujourd'hui. C'est très rude la vie commune. Moi, j'ai mis à dire que la vie commune exige d'avoir suffisamment de force pour accepter que le rouleau compresseur passe. On doit faire tout ce qu'on peut pour vivre pleinement et totalement au rythme de la vie commune. Tout ce qu'on peut. Sauf si c'est exagéré au point de vue de notre santé. Hein. Alors, on le dit. On doit faire tout ce qu'on peut. C'est bon. C'est une excellente ascèse. C'est une grande ascèse. La cesse du silence et la cesse de la vie commune. C'est une très grande cesse. Ça nous apprend à avoir un peu de volonté. Parce que ça, c'est important. Mais il faut que nous ayons des vertèbres suffisamment solides pour quand le rouleau compresseur est passé, on soit capable de se relever. Parce que si on est tous hein, complètement aplatis, complètement, ça ne va pas du tout. C'est un très grand mystère. J'exprime ça symboliquement, mais c'est très profond. Il y en a qui sont écrasés par la vie commune. Il y en a qui sont écrasés. Ce n'est pas l'idéal. La vie commune doit vous aider à exercer la charité fraternelle d'une manière plus profonde. La vie commune doit vous aider à faire que le Christ soit plus présent en vous et qu'il vous apprenne à regarder davantage ceux qui sont proches de vous. La vie commune est toute théologale par sa finalité, parce qu'elle nous apprend à aimer Jésus. Elle ne doit pas rester horizontale, ce serait lamentable, mais elle doit au contraire nous aider à aller plus loin et à découvrir davantage ce lien avec Jésus, ce lien avec nos frères, ce lien plus intime, plus profond avec tel ou tel. Découvrir cela pour aimer plus, aimer mieux. Découvrir ça pour que petit à petit, notre égocentrisme tende à disparaître. C'est tellement utile, vous avez ça. Il n'y a rien qui scandalise plus les chrétiens quand ils voient un religieux qui ne pense qu'à lui. Les palmes de l'Académie. Quand ils ne pensent qu'à lui, qu'ils ne pensent qu'à la gloire, l'honneur. Quand ils ne pensent qu'aux relations qu'il a. Quand ils ne pensent que ce qu'on peut dire de lui. Et ainsi de suite. Vous voyez, soigner son image internationale. C'est effrayant, hein, qu'un intellectuel fasse ça, professeur d'université. Bon, ça passe. Si son intelligence est plus grande que la réclame qu'on fait de lui. Mais quand la réclame qu'on fait de lui est plus grande que son intelligence, on pense tous à la grenouille qui veut devenir aussi rose que le bœuf. Il faudra avoir le courage de lui dire si on l'aimait vraiment. C'est très vrai qu'on a tous à faire que tout cet égocentrisme qui est en nous doit tendre à disparaître. Cette grosse vanité doit tendre à disparaître. Devenir des pauvres, de vrais pauvres, des pauvres de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne témoigne pas de certaines relations qu'on peut avoir. Ça, c'est très bien, parce que c'est quelquefois des choses très belles qui nous permettent de transmettre, surtout aux jeunes, de transmettre des tas de choses en les comprenant bien. Il y a une manière de les dire, il y a une manière de les dire en tant que témoin du Christ. Alors, si le Seigneur nous a permis d'avoir des quantités de relations et des gens intéressants, tant mieux. C'est pour ça que de temps en temps, on vous donne une conférence un peu extraordinaire, vous comprenez bien, qui n'est pas directement dans le programme. C'est pour que vous puissiez quand même, au-delà de ce qu'on représente, une étude classique, toujours un peu la même, avoir un regard plus ouvert. C'est bon, ça. C'est, je crois, très important. Alors, ce qu'on donne ici, plus tard, vous l'aurez forcément. Chacun d'entre nous seront appelés. Et car regardez les jeunes pères d'aujourd'hui, hein, j'en dis pas trop long, mais regardez les jeunes pères d'aujourd'hui, ces jeunes poulains, lâchés en liberté. Alors vous voyez comme c'est vrai. Ils peuvent vous dire tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont. C'est très bien. Et c'est enrichissant pour nous. Ça doit être enrichissant. Il faut demander à vos frères, quand ils reviennent de mission, quand ils reviennent, de vous dire ce qu'ils ont fait. Parce que si vous ne demandez pas, ils se tairont. Mais demandez-leur. Quelle est leur manière de regarder? C'est important. Et c'est bon, parce que c'est comme ça qu'il y a un flux, un reflux. Et qu'il y a une possibilité de mieux se connaître, une possibilité de s'aider. La vie commune, ça peut être très riche. Peut-être très rude. Et quelquefois les deux en même temps. C'est très rude parce que ça nous empêche de retomber dans notre petit égoïsme personnel. Alors ça, c'est l'Esprit Saint qui passe avec de la paille de fer. Tiens-lui. Et puis, c'est très enrichissant, parce que c'est quand même nos frères qui ont peut-être des expériences totalement différentes de nous, qui ont peut-être des expériences que nous jugeons beaucoup moins importantes que les nôtres, qui ont peut-être un degré de culture très faible. Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une question pour entrer dans la communauté Saint-Jean, mais qui ont un grand amour. Dans la vie commune, on doit souvent dire la parole de Jésus. Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux petits. Et découvrir les petits. Qui des sages et des prudents, tant mieux. Il ne faut surtout pas qu'ils disparaissent. Et qu'il y en ait qui ont des tas de relations, des tas de... Tant mieux. Qu'il y en ait qui connaissent vraiment beaucoup de choses au point de vue artistique, au point de vue littéraire, au point de vue philosophique, mais tant mieux, c'est un enrichissement merveilleux. Mais il ne faut pas que ça mette à l'ombre ceux qui, de fait, ont moins d'expérience. La charité fraternelle, c'est au niveau de la charité fraternelle. On aime son frère en tant qu'il est l'envoyé du Christ. On ne l'aime pas en fonction de ses qualités. Ah, il est très compétent, celui-là. Ah, ce que j'aime d'être avec lui, parce que pendant une récréation, j'apprends beaucoup de choses. C'est très bien d'être content d'être avec lui, parce que vous apprenez beaucoup de choses. Mais il ne faut pas exclure les autres. Vous apprendrez peut-être quelquefois beaucoup plus de choses, tout simplement en comprenant la petitesse, la pauvreté de tel ou tel. Il faut qu'on soit très fraternel et qu'on ne fasse pas peser nos connaissances, notre, voyez, tout ce qui est notre fama, hein, voyez, tout ce qui est partie de la petite gloire, la gloire de notre famille, ça peut arriver, ça. Heureusement, grâce à Dieu, il y a toute la gamme. Tant mieux, tant mieux. Alors, on ne doit pas faire sentir ces choses-là. On doit être heureux de pouvoir faire une mise en commun. Et il faut que cette mise en commun fraternelle, la charité fraternelle, c'est dit très long ça, vous voyez, c'est très important, parce qu'on se regarde toujours dans le regard de Jésus avec le même amour et la même intensité d'amour. On s'aime pour le Christ et dans le Christ. On ne s'aime pas en fonction des qualités. On aime l'autre parce qu'il est fils bien-aimé du Père, de Jésus. Ça va très loin, ça. Eh bien, c'est le fruit de la communion de chaque jour. Si nos communions sont ferventes, notre charité s'intensifie. Et si notre charité s'intensifie, notre vie commune s'allège. Ce sera toujours difficile à cause du nombre, mais ça s'allège. Il y en aura peut-être des intuitions prodigieuses pour essayer de voir comment la vie commune peut s'alléger de telle ou telle manière. Ça peut arriver, ça. Alors, il faut supplier l'Esprit-Saint de nous donner cette légèreté divine dans la vie commune. Si on sait que, par naturel, on est un peu lourd, hein, ça peut arriver, des corps de fer, des corps d'argent, des corps d'airain, il y a toujours un petit quelque chose de vrai, hein. Alors, si on sait qu'on a ça, on n'en peut rien, de quelle extraction on vient, on n'en peut rien. On doit remercier Dieu, de toute façon. Il ne faut jamais faire sentir à ceux que, de fait, Dieu a moins favorisé, humainement parlant. Il leur a donné peut-être bien plus, divinement. Et c'est ce divin qu'on doit essayer de découvrir. Il faut tout le temps y revenir dans la charité fraternelle. Il ne faut pas croire que c'est fait. Non, c'est pas fait du tout. Mais c'est pour tous, hein. Jusqu'à la fin de votre vie, vous direz que la charité fraternelle demande d'aller beaucoup plus loin et que la vie commune demande de se réaliser mieux. Ce sera plus facile dans une petite communauté, c'est vrai. Mais quand on va dans une petite communauté de Cotignac ou de la Chaise-Dieu, c'est très beau. La Chaise-Dieu impressionne l'évêque. Il l'a dit la dernière fois. C'est impressionnant de voir l'amour qu'ils ont entre eux. Je sais bien, ils sont tous jeunes. Alors ça aide. Mais c'est beau de voir ça.